France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
De nouvelles méthodes d'éducation ? Tiens, air nouveau. Oui, air nouveau, et régulièrement nouveau, si l'on peut dire. En tout cas, air nouveau au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. École, lycée, puis université, Michel Robida promenait son micro dans Paris. Un lycéen, vrai ou faux, de Janson de Sailly. Un recteur qui lit son texte, un étudiant étranger qui compare les universités françaises avec celles de son pays. Mais il vient d'arriver seulement dans la capitale. Et puis aussi les restaurants universitaires, et encore où se loger. Bref, écoliers, lycéens, étudiants sont de retour. Ils étaient de retour à l'automne 1946 et la chaîne nationale en rendait compte.
Le service Amérique du Nord de la radiodiffusion française vous présente « De l'école à l'université ». Reportage par Michel Robida sur les différents aspects de la vie des écoliers et des étudiants parisiens.
Des enfants qui chantent une ronde, de petits enfants dans une cour qui se tiennent par la main. Et c'est déjà l'école maternelle. C'est la rentrée. Je vais vous dire, confiait Anatole France, ce que me rappellent tous les ans les feuilles qui jaunissent. Ce que je vois alors, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gypsière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Et puis, ce sont des doigts gourdes froids, une main tachée d'encre et les pages d'un dictionnaire feuilletées rapidement, où les caractères d'imprimerie, fins comme des pattes de mouche, composent de décevants hiéroglyphes, noirs sur blanc. Tout cela, c'est l'école. Il y a des mots qui, au fur et à mesure que nous avançons en âge, semblent perdre leur signification première, renoncer au sens qu'ils avaient pour nous dans notre enfance. Vous souvenez-vous de ce que signifiait le jeudi ? Et ces mots ? Après 4 heures, une longue soirée de solitude commençait. Rappelez-vous l'école du Grand Maune, la classe de M. Sorel. Peu à peu, les derniers gamins attardés abandonnaient l'école refroidie où roulaient des tourbillons de fumée. Il y avait encore quelques jeux, des galopades dans la cour. Puis, la nuit venait. Les deux élèves qui avaient balayé la classe cherchaient sous le hangar leurs capuchons et leurs pèlerines et ils partaient, bien vite, leurs paniers au bras, en laissant le portail grand ouvert. Ce portail ouvert, d'autres devaient le franchir, beaucoup d'autres. Et c'est le miracle du monde que son éternelle jeunesse. Nos garçons ont grandi. Entrons avec eux au lycée. La récréation bat son plein. Mais pour combien de temps ? Deux heures ont sonné, les jeux sont finis. Les enfants se mettent en rang, la longue colonne va monter l'escalier. Des pas sur les marches, d'autres pas. Un couloir et les enfants pénètrent dans la classe. Un cours d'anglais va commencer, le professeur s'installe à son bureau.
Andrieux.
L'élève Andrieux sort de son banc. Il traverse la classe, s'approche du tableau noir. Il se tient debout, les bras croisés, pas trop fier de lui, peut-être après tout intimidé par notre micro. Le professeur lui tend un livre et lui indique une phrase à traduire.
Citez-moi votre exemple bref.
Let us pop.
Chut.
into a shop, I want to polish off a lot of yod.
Odd. Odd job. Votre accent est trop long. Recommencez.
Let us pop into a shop. I want to polish up a lot of
job.
Quittons ce cours d'anglais. Aussi prudent que nous ayons tenté de l'être, un micro dans une classe ne manque pas de troubler les élèves. Laissons-les travailler. Vous avez tous, plus ou moins, entendu parler des nouvelles méthodes d'éducation, et c'est à une de nos collaboratrices, Mme Bache-Rigon, spécialiste de ces questions, que je vais demander de nous les définir en quelques mots.
Eh bien, je vous dirai tout de suite que si, au lieu d'installer votre micro dans une classe rituelle de lycée, vous l'aviez mis dans une classe faite d'après les méthodes d'éducation nouvelles, vous auriez été un merveilleux instrument de travail. Toute la leçon aurait tourné autour de votre enregistrement, vous auriez expliqué comment on le réalise, et ensuite les enfants auraient rédigé et imprimé un reportage avec dessin à l'appui.
Mais vous avez visité, je crois, des institutions où les méthodes de Freinet sont appliquées.
Oui, au début de cette année. Et c'est à la visite au centre de Saint-Rémy-de-Provence que je pensais en vous répondant. Nous avons passé là-bas 2 jours avec notre voiture immobilisée par une panne et les enfants en ont profité pour se documenter. Car la base même de cette méthode, c'est de développer la curiosité de l'enfant et de le mettre dans la vie. On ne lui apprend pas le sens d'un mot, il le découvre en l'adaptant à son texte. Ainsi se trouve résolu le problème des mots expliqués à la suite d'une dictée et de la composition française.
Mais ceci est de la théorie. Avez-vous pu juger des résultats obtenus?
Oui, bien que ma visite ait été rapide. À l'école de Freinet lui-même, qui est à Vence, j'ai pu voir dans le domaine des réalisations manuelles une salle de classe qui a été bâtie il y a une quinzaine d'années par des enfants de 12 à 15 ans et par Freinet qui a gâché le plâtre avec eux. Les fenêtres sont plus ou moins régulières, mais le bâtiment tient toujours et on a même monté un étage dessus. À Saint-Rémy, j'ai lu un reportage réalisé d'après une visite faite par les enfants aux mines d'Alès. Ils avaient composé un numéro spécial de leur journal avec illustrations et leur lino était vraiment excellent. Non seulement ils avaient rédigé et imprimé le texte, mais ils avaient même poussé le souci de l'art jusqu'à rechercher une vieille chanson de mineur qu'ils avaient transcrite.
Car ils chantent aussi.
Oui, et ce n'est pas pour eux l'occasion de se montrer ou de jouer au petit prodige, mais le chant est un mode d'expression comme la danse ou la parole ou les cris. D'ailleurs, écoutez-les dans une vieille chanson provençale qui dit toute la joie du printemps.
Le chant que vous écoutez est déjà bien différent de celui entendu tout à l'heure à l'école maternelle. Mais que pense de cette question des programmes un élève de 3e A, lycée Janson de Sailly?
Moi, je ne trouve qu'il n'y a pas assez de gymnastique.
Pas assez de gymnastique, vous avez des cours pourtant.
Oui, on a 2 heures de gymnastique par semaine. Que voulez-vous qu'on fasse 2 heures de gymnastique par semaine? On se développe toute la vie, on ne se développe pas pendant 2 heures par semaine.
Mais que reprochez-vous encore au programme?
Beaucoup trop de théorie, pas de pratique.
Oh, mais que voulez-vous dire?
Mais par exemple, pour la géographie, ce qu'on apprend en 1 heure, on pourrait l'apprendre en 10 minutes rien que par le cinéma.
On ne vous présente pas de film?
Mais non, on ne nous en présente pas. On nous en présente qu'au cinéma, il faut payer de notre poche. On devrait, au moins, l'État devrait faire quelque chose.
Et vous reprochez rien d'autre?
Mais si, pour les cartes, par exemple. Si toutes les cartes étaient à la même échelle, on ne dirait pas que la Chine est aussi grande que la France.
Ben voilà au moins un lycéen qui a une opinion. Des lycées, des écoles, nous allons maintenant passer aux facultés. Installées sur la rive gauche, au temps d'Abélard, un siècle avant Saint-Louis, les écoles de Paris, ayant secoué le manteau épiscopal et sa protection un peu lourde, étaient devenues au XIIIe siècle la libre université, corps régulièrement organisé, divisée en 4 facultés. Faculté des arts, faculté de théologie, faculté de décret ou de droit canon, et faculté de médecine. Collèges, maîtres et élèves constituaient ainsi sur les pentes de la colline Sainte-Geneviève une ville à part, ayant sa langue particulière, puisqu'on ne parlait là-haut que le latin. Que reste-t-il aujourd'hui de la vieille cité médiévale pour le promeneur qui emprunte le boulevard Saint-Michel? D'abord un nom, le quartier latin, et puis quelques vieilles rues, des souvenirs et surtout la jeunesse. Les écoliers n'ont plus de souliers à la poulaine, La basoche est morte, les lycées succèdent au collège, de nouvelles facultés sont nées, mais autour de la vieille Sorbonne reconstruite, les étudiants blagueurs, vêtus de canadiennes qui ont jeté la faluche par-dessus les moulins, déambulent toujours du Luxembourg à la Seine par le célèbre Boulmiche. Quelle est leur vie? Comment sont-ils installés? C'est à monsieur le recteur André Lirondel, délégué général à la cité universitaire de Paris, que nous sommes allés le demander.
Si l'an dernier, il fut possible, après l'occupation allemande et la réquisition américaine, grâce à des démarches innombrables et à un labeur acharné, de rendre habitables 2400 chambres pillées ou souillées et d'en faire bénéficier un nombre considérable de Français, nos amis étrangers n'ayant pu encore reprendre aisément le chemin de Paris, cette année, au contraire, voit un afflux sympathique venu de tous les points du monde. La part des Français s'en trouve sensiblement réduite. Encore fallut-il répartir où l'on put les résidents de l'an dernier qui n'avaient pas démérité. Un nombre infime de chambres demeurait disponible pour les recrues de 1946. On estima que la priorité serait accordée aux étudiants en fin de scolarité pour leur permettre d'entrer au plus vite dans les cadres de la nation, ce qui accélérerait l'admission de leurs successeurs. Mais les conditions de certains contrats obligeaient à réserver aussi les droits des donateurs, ce qui produisait des inégalités apparentes, génératrices de malentendus. Enfin, l'effort financier de l'État pour accroître le nombre de boursiers étrangers et renouer l'antique tradition de l'Université de Paris ne pouvait laisser insensible la cité universitaire, susceptible par le confort, la conception et l'attrait de ses installations, de donner à nos hôtes l'idée la plus sympathique de la France intellectuelle. Nombre de ceux-ci, ne possédant aucun pavillon national, durent être reçus dans d'autres fondations, diminuant ainsi la part de nos compatriotes. Ainsi, la peau de chagrin sur laquelle reposait l'espoir de milliers de provinciaux se rétrécissait chaque jour. La solution ne peut être immédiate, mais elle s'annonce dans un délai mesurable. Elle consiste à continuer l'œuvre interrompue par la Deuxième Guerre mondiale. Des fondations nouvelles sont envisagées par les pays amis. Égypte, Iran, Roumanie, Tunisie dressent des plans. De grandes écoles abordent le même problème. Un magnifique terrain offert avant la guerre par notre bienfaiteur, le vice-président David Weil, est destiné à construire, dès que l'obstacle financier sera surmonté, de séduisants pavillons de jeunes filles. D'autres projets attendent dans nos cartons. Mais il faut faire face au présent urgent, lourd de soucis.
Donc, à la cité universitaire, étudiants français et étudiants étrangers vivent côte à côte. Et, les célèbres collèges britanniques étant toujours cités en exemple, il nous a paru intéressant de demander à un jeune étudiant anglais, actuellement à Paris, de comparer les deux méthodes.
Je suis arrivé ici il y a 4 jours seulement. Par conséquent, je ne puis vous confier que des premières impressions. Il y a ici comme une intensité de vie qui frappe beaucoup un Anglais qui n'a connu que les vieux murs et les cloîtres des vieilles universités anglaises. On se sent vivre ici en communauté parfaite, tandis qu'à Cambridge, par exemple, on a toujours sa solitude, son refuge contre les assauts de la foule. Cela ne veut pas dire que je trouve que les étudiants ici sont tapageurs ni importuns. Au contraire, on est tout de suite au milieu des amis et des camarades, tandis qu'à Oxford ou à Cambridge, quelquefois le malheureux étudiant peut passer 3 mois sans connaître ni voir personne. C'est en partie parce qu'en général, la vie universitaire anglaise est plus coûteuse et que, par conséquent, on vit dans un luxe extraordinaire relativement parlant, avec 2 ou 3 grandes pièces bien meublées pour chaque étudiant. Mais on voit bien que la vie communale en souffre, et que l'étudiant qui vient d'arriver, surtout s'il n'est ni riche ni boursier, peut être très misérable et se sentir très seul. À la cité universitaire, la vie communale est inévitable. Et l'étudiant, pour modeste qu'il soit, ne pourra pas s'empêcher de s'embarquer dans la vie gaie, bruyante et intense de son collège.
Laissons cet étudiant rejoindre ses camarades. Espérons que Paris ne décevra pas. Mais quelle est leur vie dans la capitale de la France? Eh bien, elle est celle de tous les étudiants français. Comme eux, ils se réunissent parfois, chantent ensemble, car une chanson évoque mieux qu'on ne saurait le croire le pays lointain.
Oh,
quittons l'étranger, écoutons les étudiants de chez nous chanter un air traditionnel du quartier latin. La différence de rythme en dit autant que les précisions que nous a fournies l'étudiant anglais. Hélas, les étudiants ne font pas que chanter. D'autres problèmes et les plus graves se posent à eux. 32 000 étudiants en droit, 21 000 étudiants en lettres, 18 000 étudiants en sciences, 19 000 en médecine, 7 000 en pharmacie et j'en passe. C'est une ville dans la ville. Aussi, un comité parisien des œuvres sociales en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire s'est-il créé. Son but, le secrétaire général, M. Pollack, va nous le définir.
Alors, le comité parisien des œuvres en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire a pour but, primo, d'étudier toute question intéressant à un titre quelconque la vie intellectuelle et matérielle des étudiants et de prendre toutes initiatives propres à sauvegarder et à améliorer leurs conditions d'existence. Deuxièmement, de coordonner et de grouper les activités de toutes les œuvres sociales universitaires qui sollicitent son appui et de mettre chacune d'elles dans les conditions les plus favorables pour remplir sa tâche particulière. Enfin, troisièmement, d'appuyer de son autorité les légitimes revendications des étudiants lorsqu'elle est sollicitée, ou plutôt, puisqu'il s'agit du comité, lorsqu'il est sollicité, d'agir en dehors de toute considération confessionnelle et politique.
Une question urgente se pose, celle qui angoisse encore tous les Français et qui est terriblement grave pour une bourse d'étudiants. En l'absence de M. Oléon, chef du service des restaurants, son aide, une jeune fille, va nous renseigner. C'est vous, mademoiselle, qui vous occupez des repas?
Monsieur, je m'occupe des restaurants universitaires. Ces restaurants sont divisés en trois catégories, si je puis dire. Vous avez des restaurants gérés par le comité parisien directement, des restaurants qui sont autonomes, dont les personnes qui s'occupent directement enfin, de leur foyer, c'est-à-dire que nous leur procurons du ravitaillement, mais ils restent absolument libres d'agir comme ils veulent dans leur foyer, dans l'organisation de leur foyer. Et il y a également des restaurants patronnés, tels que les restaurants étrangers, roumains, yougoslaves, dont on s'occupe pour le ravitaillement, mais qui dirigent eux-mêmes leurs restaurants, qui donnent les prix qui leur conviennent selon les subventions qu'ils ont obtenues de leur gouvernement ou du gouvernement français.
Est-ce que tous ces restaurants sont au quartier latin?
Tous ces restaurants sont dans le quartier latin, enfin tous, presque tous. Il y en a quelques-uns dans les environs du quartier latin exactement, d'autres sont un peu disséminés dans Paris, et il y a la cité universitaire qui est assez loin de Paris, mais où les étudiants vont assez facilement.
Oui, et puis il y en a beaucoup qui sont logés auprès. Mais est-ce que vous pourriez me dire à peu près le prix du repas dans un de ces restaurants?
Le prix qui est demandé par les étudiants est de 35 francs pour midi et pour le soir.
35 francs, évidemment, cela ne paraît pas très cher, mais quand on n'a pas d'argent... D'ailleurs, les repas, ce n'est qu'un aspect de la question. Changeons maintenant de bureau et dirigeons-nous vers celui qu'assiègent jeunes gens et jeunes filles, où l'on s'occupe de trouver des chambres aux étudiants. Cet organisme s'occupe entre autres des restaurants universitaires, situés pour la plupart au quartier latin et où les étudiants peuvent trouver un repas, le matin et le soir, pour 35 francs. Mais ceci n'est qu'un aspect de la question. Changeons maintenant de bureau et dirigeons-nous vers celui qu'assiègent jeunes gens et jeunes filles, et où l'on s'occupe de trouver des chambres aux étudiants. C'est M. Dauge qui est chargé d'une question bien difficile en ce moment, celle du logement des étudiants. Et je lui ai demandé, je l'ai trouvé au milieu d'énormément d'agitation, d'énormément de gens autour de lui, et je voudrais savoir comment il s'en tire, parce qu'en fait c'est un problème.
Comme vous venez de le dire si justement, c'est un problème excessivement grave. Nous avons cherché à résoudre ce problème de la façon suivante. D'abord, les logements chez les particuliers. Deuxièmement, les logements en hôtel. En ce qui concerne les particuliers, Monsieur le Préfet a fait une propagande énorme. 20 000 affiches par ses soins ont été répartis dans Paris et 5 000 par les nôtres. Nous avons enregistré 400 offres de logement, dont un grand nombre en banlieue, ce qui malheureusement complique beaucoup la tâche de nos étudiants qui de ce fait perdent beaucoup de temps pour se rendre aux facultés.
Oui, évidemment, il vaudrait mieux qu'ils soient à Paris.
Et évidemment, ça serait beaucoup plus simple. Malheureusement, les Parisiens ne semblent pas répondre avec enthousiasme à notre appel. En ce qui concerne les hôteliers, sur l'avis de Monsieur le Préfet de la Seine, nous avons entrepris une campagne d'accord amiable avec leur chambre syndicale dans le but d'éviter les réquisitions, mesure qui rappelle étrangement de tristes souvenirs. Nous avons pu, grâce à l'activité de certains inspecteurs, enregistrer 360 offres de chambres au mois, dont correspondant à des prix en rapport avec les bourses d'étudiants, et environ 180 chambres, chambres plus chères dans ce cas-là. Il s'agit d'étudiants boursiers invités par le gouvernement français, et pour lesquels d'ailleurs les affaires étrangères payent une assez large subvention. C'est donc un total d'environ 950 à 1000 étudiants que nous avons réussi à loger au courant du mois d'octobre, mais hélas, il nous reste environ 1200 demandes enregistrées. Et ce n'est pas exagéré, je crois, de compter qu'environ 300 étudiants qui ne se sont pas fait encore inscrire chez nous viendront nous demander asile. C'est donc 1500 étudiants qu'il faut compter loger et d'ici le 15 novembre. Vous voyez donc l'urgence du problème.
Oui, c'est un travail énorme. Mais enfin, c'est déjà un très beau succès que vous ayez pu en caser tant. Est-ce que vous avez... Je vois que vous êtes entouré d'un tas de garçons très jeunes. Ils vous aident ici.
Et oui, justement, nous avons fait appel à certains étudiants, dont un ici présent, sympathique garçon de la Maison des Lettres, étudiant à lettres lui-même, et qui vient nous aider de son activité pour répondre tant aux offres des particuliers qu'aux nombreuses demandes de ses camarades.
Et qu'est-ce que vous faites ici?
Eh bien, écoutez, quelque chose de très drôle. Je reçois les braves gens qui viennent proposer une chambre.
Est-ce que ça arrive souvent?
Hélas, non, mais enfin, ça se présente. Alors, on intercepte ces gens dans le bureau, et alors on écoute leur petit laïus. C'est souvent très comique. Et alors les chambres ainsi enregistrées, avec tous les détails de chauffage, de cabinet de toilette, d'eau chaude, d'eau froide, de préférence, sont montées à un étage supérieur et là sont distribuées les après-midi aux étudiants nombreux qui viennent.
Il y a une question que je n'ai pas encore posée. Ces chambres reviennent à peu près à combien par mois?
Bien, écoutez, c'est de 1200, 1500 et 1800 francs. C'est à peu près ce qu'on demande.
1800 francs. Je vais me tourner alors vers M. Lowe. Je vous croyais que pour un étudiant, il faut qu'il compte à peu près combien par mois?
Eh bien, maintenant, il faut compter en moyenne 1500 francs.
Oui, et alors, évidemment, avec les repas, il lui faut à peu près combien par mois?
Bien, les repas, comptez-les à 35 francs. Il y en a deux par jour, ça fait donc 70. Ça fait environ 2100 à 2200, puisqu'il faut compter les dimanches, jour de fermeture, où les étudiants sont évidemment livrés à eux-mêmes pour leurs repas, sauf la cité universitaire qui, elle, marche même le dimanche.
Parce que le dimanche, il n'y a rien.
Ah oui, alors le dimanche, il y a la cité universitaire ou alors les traditionnelles baguettes du boulanger avec la charcuterie de l'Alsacienne boulevard Saint-Michel. C'est fort peu.
Évidemment. Mais en fait, c'est une vieille tradition, vous savez, si on monte très loin. Mais que serait le quartier latin sans son annexe naturel, le jardin du Luxembourg? Sur les vastes terrasses et sous les quinconces de marronniers, les écoliers coudoient leurs frères aînés, les étudiants. La farandole de l'enfance rejoint le beau chahut de l'adolescence et plus d'un gosse, à la mine éveillée, s'arrête étonné en entendant acclamer Ferdinand Lopes, célébrité de quartier, qui passe dédaigneux sans même tourner la tête. Mais les jeux ont une fin, même ceux des grands, et quand vient le soir, il ne reste plus dans le jardin désert que quelques promeneurs au bord d'un bassin où s'égrène un jet d'eau solitaire. Hélas, il faut quitter le Luxembourg, ses grilles sont fermées. Que font alors les étudiants? Certains rentrent dans leur famille, d'autres regagnent les maisons de faculté. Que sont ces maisons? Monsieur Châtaignier, chargé de s'en occuper, va nous l'expliquer.
Ces maisons de faculté, qui ont été créées il y a déjà quelques années, ont pris une activité tout à fait intéressante dans ces derniers mois, et même depuis la Libération en particulier. Il y avait un problème assez délicat qui avait été esquissé à plusieurs reprises, qui était celui des rapports entre ces maisons de faculté et les associations d'étudiants. Nous avons essayé dans les mois derniers de mettre un terme aux différentes équivoques qui avaient pesé sur ces problèmes et d'élaborer un statut qui répond aux besoins et aux désirs des uns et des autres. Vous connaissez peut-être aussi certaines autres activités. La Maison des Lettres organise également des groupes de radio, des groupes de poésie, des groupes de danse rythmique, des groupes d'études du roman. Et nous comptons mettre l'accent de plus en plus sur les problèmes d'échanges internationaux, d'échanges culturels, et intégrer dans ces différents groupes littéraires ou artistiques des étudiants étrangers qui pourraient y apporter un élément et une collaboration particulièrement intéressante. Il y a également dans ces maisons des activités sportives, et nous avons essayé justement d'y regrouper les éléments les plus intéressants des facultés pour constituer des équipes, équipes de football, équipes de rugby, équipes de basket, qui dans le cadre des maisons et des associations sportives de facultés réalisent un travail d'initiation et de propagande pour le sport qui nous semble également très intéressant, qui complète, je crois, très heureusement l'effort que fait la direction de l'enseignement supérieur sur le plan également de l'éducation physique et des sports.
Questions culturelles, questions matérielles, questions morales, intellectuelles ou sociales, toutes ont leur importance dans ce problème quotidien que pose l'existence d'un étudiant dans la capitale. Et c'est à M. Cabane, doyen de la Faculté des sciences, que nous avons demandé de bien vouloir mettre l'accent sur un aspect de la vie des étudiants auquel trop peu de parents songent avant de les laisser s'engager dans cette voie difficile.
Aborder l'enseignement supérieur, c'est pour beaucoup de jeunes gens quitter pour la première fois la famille. Pour tous, c'est passer de la discipline des lycées à une liberté presque totale. Ils vont trouver des leçons clairsemées, une assiduité peu contrôlée, un travail sanctionné par les seuls examens de fin d'année, une absence presque complète de liaison entre les autorités universitaires et les familles. Impossibilité pour les professeurs de connaître les étudiants, ils sont trop nombreux. Trop souvent aussi, les étudiants craignent de s'adresser à des maîtres qui pourtant seraient heureux de les recevoir, de les conseiller, de sentir l'amitié confiante de leurs élèves. Telles sont les premières années de l'étudiant, les plus difficiles pour les uns, les plus incertaines pour d'autres. Plus tard, les choses vont s'arranger. Ceux qui fréquentent nos laboratoires trouvent des camarades dévoués à la science et heureux d'instruire leurs cadets. Dans les laboratoires, les professeurs deviennent plus facilement accessibles, les étudiants y trouvent une nouvelle famille. La passion de la recherche les prend tout entier et une belle existence alors se dessine à leurs yeux. Les difficultés de la vie matérielle actuellement s'ajoutent au désarroi moral. À Paris, l'étudiant paie très cher des chambres exiguës, mal chauffées. La cité universitaire leur apparaît comme un paradis inaccessible, sauf un tout petit nombre d'élus. Aussi, les familles, avant de livrer leurs fils et leurs filles à l'université, doivent-elles s'assurer qu'ils ont les solides qualités qui seules leur permettront des études fructueuses. Fermeté de caractère, méthode de travail, intelligence et possession des connaissances générales qui sont essentielles à la poursuite en profondeur d'études spécialisées.
Ces qualités, beaucoup de nos jeunes Français les possèdent. Depuis des siècles et des siècles, la vieille université les a vus s'approcher de ses portes avec une audace mêlée de respect. Elle les a vus s'épanouir, échouer parfois, ou même se retourner contre elle. Mais le plus souvent, et même dans leurs attaques contre l'alma mater, elle a pu reconnaître les traits qu'elle avait elle-même forgés. L'ingratitude des enfants est, dit-on, chose naturelle. L'université a traversé bien des crises, elle les a surmontées. Elle sait que toujours de nouveaux venus viendront chercher auprès d'elle la culture dont ils ont besoin. La jeunesse chasse la jeunesse, les enfants succèdent aux enfants, et la ronde, éternellement renouvelée, se renoue d'elle-même sur la même chanson, le petit chant clair de l'école maternelle, qui mènera les élèves par la même filière que nous avons suivie, de l'école à l'université.
De l'école à l'université. Un reportage par Michel Robida sur les différents aspects de la vie des écoliers et des étudiants parisiens. Cette émission vous a été présentée par le service Amérique du Nord de la radiodiffusion française.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale à la rentrée 1946.